Bonjour à toutes et à tous, curieuses et curieux, auditrices et auditeurs, sympas, compas, empas. Bonjour et bienvenue dans l'onde curieuse de ce mardi 21 octobre. Aujourd'hui, on est un peu empâté, justement, empâté d'empathie, car on en bouffe, on en est empêtré, on ne sait plus quoi faire de ce mot totem brandi comme une panacée pour absoudre nos péchés. Gare à ceux qui n'en ont pas, gloire à ceux qui en débordent. Heureusement, Sama Karaki, docteur en neurosciences, qui a publié l'année dernière L'empathie politique, sous-titré « Comment les normes sociales façonnent la biologie des sentiments », nous tire de ce faux pas, ouvre le capot de l'empathie et vient renverser la perspective, peut-être au point de ravaler nos 10 péchés. Et heureusement, Bis Vivi a décidé de dédier à ce livre 3 séances d'arpentage, dont la dernière a lieu ce soir au Palabre à Aubenas. Vous êtes les bienvenus d'ailleurs, même si vous n'étiez pas au précédent. Et a décidé également de l'inviter, donc Sama Karaki, à la librairie du Tiers-Temps le 30 octobre, c'est jeudi prochain, pour une rencontre. De tout cela, on parle dans un instant avec Vivi, mais bien sûr, c'est après l'agenda. Vichot, le responsable du Secours populaire de Vallon-Pont-d'Arc, reçu il y a quelques jours à ce micro, disait qu'il n'aimait pas beaucoup le mot d'empathie et qu'il lui préférait la fraternité. Alors qu'à cela ne tienne, Vichot, voici pour toi et pour beaucoup d'autres, on peut l'espérer, le début des fraternités musicales, le nouveau festival de Privas, avec ce soir une soirée classique nouvelle génération et deux femmes, Esther Abrami et Marion André. C'est dès 20h30 à l'espace Ouvèze. Et demain, autre concert, une ode à deux grands noms du classique à 19h. Rebecca Chaillot joue les variations Goldberg de Bach. Et à 21h30, Paul Lay s'empare de Beethoven pour un full solo. C'est le festival Les Fraternités Musicales de Privas qui ont lieu toute cette semaine. Vous trouverez toutes les infos sur intimeopera.com. Nous verrons dans notre sujet si l'on balance l'empathie avec l'eau du soin ou s'il est possible de redonner une juste place à l'affect. C'est le parti pris en tout cas du service Info Jeunes Sud-Ardèche et de la mission locale Ardèche Méridionale qui, en partenariat avec les communautés de communes du Sud-Ardèche et la ville d'Aubenas, organise entre octobre et janvier les Feel Good Sessions dans 9 communes du Sud-Ardèche. Les Feel Good Sessions, qu'est-ce que c'est? Elles s'adressent aux jeunes et à leurs parents pour sensibiliser de manière pratique et ludique à l'importance de prendre soin de sa santé physique et mentale, informer sur différentes facettes du bien-être et de la santé et sur les aides possibles, et puis aussi l'occasion de découvrir des activités sportives, ludiques et originales grâce au camion mobile sport, puis bien sûr d'échanger avec d'autres jeunes. Et enfin, et c'est pas le moindre, boire un smoothie. Oui. Les premières dates, c'est demain, mercredi à Aubenas, de 9h à 16h à la Halle des Sports. C'est en même temps que le challenge sportif et citoyen organisé par la ville. Ensuite, ce sera autour de Saint-Cirgue en montagne le 28 octobre et de Saint-Étienne-de-Fontbellon le 29 octobre. N'oublions pas d'ailleurs que le mal-être des jeunes et des moins jeunes est également le fruit de choix et de décisions politiques construites et pas seulement de pratiques individuelles. L'affect, le soin comme l'empathie est politique. Politique, du grec politikos, qui concerne les citoyens. Ce n'est pas un vague combat de coqs lointains. Et à l'aune des municipales, comment dépasser le simple rituel électoral et construire un pouvoir citoyen réel? C'est pour raviver la flamme, qui est organisée demain à 18h au bar-restaurant L'Accueil à Ribes, un atelier de réflexion collective avec Tristan Réchide, auteur et co-initiateur de la liste participative, souvenez-vous, qui avait remporté les élections à Saillan en 2014. Un atelier qui a pour thème le titre de son livre « Réanimer la démocratie », deux points, des assemblées populaires face à l'autoritarisme. Il met en lumière des expériences locales inspirantes, celle de Saillan bien sûr, et puis celle de Poitiers et bien d'autres qui prouvent qu'une autre voie est possible. L'entrée dans cette nouvelle voie est gratuite, bonne nouvelle, et l'entrée de l'atelier de réflexion aussi. C'est un événement qui est proposé par Terre et Humanisme dans le cadre des rendez-vous agroécologiques, avec la participation de la librairie La Belle Oursette et donc le bar-restaurant L'Accueil qui accueille l'événement demain à 18h, c'est à Ribes. Voilà, c'est la fin de cet agenda, on poursuit en musique et on enfile une jaquette, un jaquette et un pantalon.
مشك اطول بنطلون شفتك واقفه فوق البلكون خمنتك شبيه مادموزيل توخزيني بردون شفتك لبسه بري وكاسكت طلها بفسوق بتقيب البيت من غير بودرة من غير طواليت توصى شعرك الكرسون خمنتك شبية مدموزيل لتوخزيني بردون بردون شاب يا مادموزيل توخزيني بردون بردون
Jacket de Mashrou Leila, issu de l'album Elham Romansi, en 2011, je prononce bien, qu'on pourrait traduire, en tout cas premier couplet, « Fille à la jaquette et au pantalon, je t'ai vue debout dans le balcon, j'ai cru que tu étais un homme, mademoiselle. » L'autre n'est pas celui qui paraît, bah, ça complique les choses pour l'empathie qui est, selon la définition du dictionnaire et pas de Samakaraki, la capacité de s'identifier à autrui dans ce qu'il ressent. Alors dit comme ça, on a l'impression que l'empathie est une base neutre aboutissant naturellement à l'altruisme, bref, une émotion comprise comme innée. Grave erreur. Samakaraki, chercheuse en neurosciences et non sociologue, a ouvert le capot de l'empathie et renverse la perspective dans son livre « L'empathie politique » sous-titré « Comment les normes sociales façonnent la biologie des sentiments » et hop, la séparation nature-culture, ou ici émotion-raison, une nouvelle fois démentie par la science. Et à quelques kilomètres de là, à Aubenas, Vivi, avec la fougue et la biblie, les lynx, ont décidé de dédier à ce livre de Samakaraki trois séances d'arpentage, dont la dernière a lieu ce soir au Palabre à Aubenas, et ont décidé également d'inviter l'autrice Samakaraki à la librairie du Tiers-Temps le 30 octobre, ce sera jeudi prochain, pour une rencontre. Bonjour Vivi.
Bonjour.
Alors je sais pas comment te définir ? Tu es photographeuse, tu animes la radio libre de Vivi ?
Voilà, je fais aussi du podcast pour une association Périnée Bien-Aimée. L'été, je pars en saison. Voilà.
Oui.
J'ai une vie associative, quoi.
T'as une vie associative collective.
Oui.
Et c'est peut-être ce qui t'a mené à ce livre, L'empathie et politique. Non, d'abord, juste, je veux revenir sur le morceau. C'est toi qui l'as choisi. Pourquoi ?
C'est un petit lien avec le fait que Samakaraki est libanaise et du coup le groupe qu'on vient d'écouter c'est un groupe libanais qui n'existe plus aujourd'hui et qui portait les valeurs LGBT QIA+ là-bas et qui a eu des problèmes aussi.
Mmh. Alors, Sama Kara, donc nous allons parler à la fois du contenu du livre et puis des arpentages que tu proposes, savoir exactement ce que c'est, comment ça se passe. Alors, ce livre, d'abord, l'empathie. Peut-être on peut commencer par là. Qu'est-ce que c'est l'empathie ?
Ben, je crois que tout le livre repose là-dessus. Enfin, moi, je ne vais pas arriver à vous dire l'empathie, c'est ça. Parce qu'en fait, Sama Karaki a fait plus de 200 pages là-dessus. En tout cas, de ce que j'ai compris et de ce qu'on comprend en arpentage, l'empathie n'est pas ce qu'on croit qu'elle est. À savoir, se positionner face à l'autre et croire qu'on est capable de ressentir ce que l'autre ressent à l'instant T. Mmh. Ça n'existe pas. Et en fait, c'est la démonstration qu'elle fait dans le livre. Ce n'est pas ça, l'empathie.
L'empathie, elle le met aussi en opposition, enfin pas en opposition, mais avec d'autres termes qui sont assez proches, comme compassion, sympathie.
Oui, en fait, elle explique les sœurs aussi de l'empathie, pour qu'on puisse un peu, pour voir qu'il n'y a pas une chose, mais il y a plein de mots qui peuvent parler de presque les mêmes sentiments qu'on pourrait ressentir pour quelqu'un d'autre.
Alors, il y a peut-être un thème central qui est central. Non, il y en a plein. Il y en a plein. Vous avez passé trois arpentages dessus. Oui. Alors, revenons plutôt aux arpentages pour savoir un peu comment vous avez procédé. Les arpentages, est-ce que tu peux rappeler ce que c'est en quelques mots ?
Alors, en fait, l'arpentage, ça vient de l'éducation populaire. C'est juste un moyen de lire un livre à plusieurs sans se farder tout le livre. Et surtout, si c'est un livre qui peut être compliqué, ça permet de lire que 4-5 pages en groupe de son côté et de revenir après et d'expliquer au reste du groupe qu'est-ce qu'on a compris de ces 4-5 pages. Donc, c'est une façon de lire un livre, déjà, dont on n'a pas l'habitude et qui permet à des personnes qui n'aiment pas lire, par exemple, de se permettre de comprendre un livre sans se faire 200 pages. Et à d'autres d'approfondir et surtout de passer un moment collectif par rapport à un sujet qui nous intéresse, quoi.
Et donc là, vous avez déjà passé deux arpentages.
Exactement.
De 2 heures chacun.
Ouais.
Concrètement, comment ça se passe et comment donc ce livre de Sama Karaki, L'empathie politique, tu l'as dépioté pour en tirer 3 séances?
Oui, parce qu'en fait, moi, ce que j'aime bien, c'est de lire les livres avant de faire les arpentages pour savoir un peu s'il y a quand même de la matière. Et en vrai, très simplement, il est tellement dense et tellement intéressant que je me suis dit, il faut faire 3 sessions. De 2 heures. Parce que sinon, une session, on va être tous frustrés et en fait, surtout, on sera passé à côté des propos de Sama Karaki. Et donc, une session, c'est, ça commence par un petit brise-glace, un peu tout bête, histoire de se détendre et d'arrêter de se prendre au sérieux parce que c'est pas l'idée, hein, on n'est pas le cercle des pogates disparus. voilà, de remettre un peu les bases, c'est-à-dire, on n'a rien à prouver, quoi. Et après, on va lire un peu, peut-être, 2-3 pages ensemble, tous ensemble, voilà, histoire de poser quelques lignes. Et après, par petits groupes, chaque groupe va lire un extrait pendant 35 minutes et décider de revenir avec ce qu'il a envie de partager aux autres pour que les autres puissent comprendre. Mais il va aussi dire ce qu'il a aimé et pas aimé. Enfin, je veux dire, ce qu'il a compris pas compris. Et ça va permettre à tous les autres de se faire un avis sur le contenu du livre. Est-ce que j'ai envie de le lire ? Est-ce que... Enfin, il y a des prises de conscience aussi qui se font pendant l'arpentage. Moi, je sais qu'au dernier arpentage, j'ai réalisé, à titre personnel, que quand j'étais en colère, je n'avais aucune empathie. Et ça, c'est parce que j'ai entendu des personnes reformuler ça, et que là, après, je me suis interrogée, je me suis dit, mais c'est vrai que moi, si je suis en colère contre un groupe de personnes ou une personne, j'ai plus aucune empathie et je déshumanise le groupe ou la personne. Donc, comme quoi, je ne suis pas mieux que personne, hein, voilà.
Alors justement, on revient au cœur du livre de Sama Karaki, pour qui l'empathie est biaisée. En fait, l'empathie, c'est pas quelque chose de naturel, mais c'est quelque chose de construit, en fait. Ce n'est pas une émotion qui arrive d'abord et ensuite on en fait quelque chose, mais c'est quelque chose qui arrive au bout d'un certain temps.
C'est ça, et en fait, elle est construite inconsciemment, parce que ça va dépendre, elle parle beaucoup de l'endogroupe et de l'exogroupe. Donc l'endogroupe, c'est un groupe qui nous ressemble, donc l'entre-soi, on pourrait dire, et l'exogroupe, c'est le groupe auquel on ne s'identifie pas. Et en fait, l'empathie joue à la fois sur nous personnellement, comment on va percevoir les autres, mais le groupe, un endogroupe, il va percevoir l'exogroupe d'une certaine manière qui fait que individuellement notre empathie elle sera soumise à l'endogroupe. C'est-à-dire que on peut très bien pris être individuellement et dire oh non mais j'ai pas de problème avec les supporters quand ils s'énervent dans les matchs. Et tout d'un coup, on est avec notre endogroupe, et là, on a vraiment un problème avec les supporters qui s'énervent pendant un match. Et c'est là où elle montre qu'en fait, l'empathie, elle est structurelle. C'est un peu comme on ne naît pas femme, on le devient de Beauvoir. Mmh. On ne naît pas empathique, on le devient, et d'une certaine manière. Mmh. Parce qu'évidemment, on va être empathique. En plus, vu qu'elle est neuroscientifique, elle va poser dans le livre des endroits où elle prouve scientifiquement, par des expériences, qu'en fait... Quand il y a des gens qui nous ressemblent, on va sentir plus d'empathie que quand ils ne nous ressemblent pas, quoi.
C'est ça aussi qui est intéressant, c'est ce que je disais en introduction, c'est pas une sociologue. On aurait pu dire, c'est en tant que sociologue, évidemment, elle va proposer une vision du monde qui est construite historiquement, etc., par les représentations. Et non, elle est neuroscientifique, elle arrive tout de même à cette même conclusion, donc d'une empathie biaisée qui est à la fois sélective, les affects sont construits par l'histoire. Excusez-moi. Tu as employé un terme qui est le terme de déshumanisation. C'est tout un processus aussi. Il y a certains groupes pour lesquels on va avoir beaucoup d'empathie. Ça, on l'a dit plein de fois, on l'a entendu plein de fois dans les médias. Quand il y a eu la guerre en Ukraine, on a dit, voyez, on est plus empathique par rapport aux Ukrainiens qui sont blancs, qui sont européens, que par rapport à d'autres, aux Palestiniens ou aux Israéliens même. Voilà, on n'a pas la même empathie parce que c'est pas le même groupe. Un problème de déshumanisation qu'elle articule, en fait, il y a trois types de déshumanisation. Est-ce que tu peux nous parler de ce phénomène ?
Alors, je crois qu'elle parle de déshumanisation... il y a quoi ? Sélective, je crois ? Non.
Déshumanisation mécaniste. Moi, j'avais noté déshumanisation mécaniste, où on considère l'autre, en fait, et ça, c'est bien pratique, on considère l'autre comme un objet.
C'est ça. Après, il y a la mécanisation... La déshumanisation...
Animal.
Ouais, en fait, voilà, c'est toujours des concepts, mais en vrai, c'est hyper intéressant. Animal, où en fait, on donne des attributs d'animaux à des populations, comme par exemple des singes ou des rats. Voilà. Et là, en fait, tout de suite, juste par la sémantique, le fait de dire ça, dans notre cerveau, on va potentiellement rabaisser les personnes à des animaux parce que on a décidé culturellement que les animaux étaient en dessous des humains et qu'on pouvait les éradiquer ou les tuer, quoi, voilà. Mmh. Ça pouvait être des invasions, enfin voilà, c'est, ouais.
Et il y a aussi une infra-humanisation, c'est-à-dire réduire l'autre, les considérer comme inférieurs moralement.
Oui.
Par exemple des homosexuels ou comme les Roms donc en fait il y a l'empathie, c'est pas un package complet, le même pour tous, qui suffirait de gonfler en l'éduquant. D'ailleurs on va entendre, parce que c'est aussi ce qui a cours dans notre société, c'est-à-dire donner beaucoup actuellement de crédit à l'empathie qui serait un peu une solution miracle.
Chaque élève de France a droit au bonheur. Chaque élève de France a le droit d'être heureux à l'école. Et ça commence très tôt, ça commence dès les petites classes. L'outil essentiel que nous allons mobiliser, c'est le travail avec les élèves dès les petites classes, les cours d'empathie. Les cours de respect de l'autre, d'apprentissage du respect de soi et des autres, les compétences psychosociales. La France va donc inscrire dans le cursus scolaire des cours d'empathie sur le modèle de ce qui existe dans d'autres pays, notamment au Danemark où je me suis rendu. Ces compétences feront désormais partie officiellement des savoirs fondamentaux de l'école. Et nos professeurs des écoles le savent, c'est un enjeu absolument essentiel. Ils le font déjà s'agissant de la socialisation, de la découverte et de la gestion des émotions qui s'apprend dès les plus petites classes.
On écoutait Gabriel Attal qui réagissait à la demande d'Emmanuel Macron en novembre 2023 de mener des actions éducatives à l'égard des jeunes et qui appelait à faire preuve d'empathie. Et donc Gabriel Attal, qui était alors ministre de l'Éducation, annonçait là le déploiement de cours d'empathie dans 1000 écoles, toujours cette fascination du chiffre rond, dès janvier 2024 pour lutter contre le harcèlement scolaire. C'était vraiment spécifique, harcèlement scolaire. Qu'est-ce que ça t'inspire après justement la lecture de Samakaraki?
Bah en plus, elle en parle dans ce livre. Donc, c'est-à-dire qu'elle dit que ses cours, c'est un peu du mirage. Enfin, voilà, c'est fait par des personnes. Déjà, c'est pensé par un gouvernement qui est celui de Gabriel Attal. Donc, déjà, c'est pas bien pensé. Et ensuite, c'est pensé par des personnes qui n'ont pas réfléchi à l'empathie, comme elle l'a fait. Et c'est quoi un cours d'empathie? Enfin, ça se pose vraiment comme question. C'est quoi un cours d'empathie? Et de ne même pas expliquer ce que c'est un cours d'empathie et d'être fier de déployer un cours d'empathie dans 1000 écoles sans pouvoir nommer à quoi ça va servir, ça prouve bien que c'est encore une espèce d'annonce effet waouh pour faire plaisir. Mais l'empathie pour les enfants, ça devrait pas être en cours déjà. Ça devrait être de base. Ça prouve déjà où on en est. Enfin.
Il fait référence à ce qui se passe au Danemark où effectivement c'est pas des cours d'empathie en fait. C'est l'empathie est enseignée à l'école depuis 93 je pense, mais c'est en fait toutes les démarches. La démarche est par exemple de résoudre un calcul de maths ensemble, en coopération. Donc c'est une vision, on va dire, plus profonde. C'est pas tout le reste, pendant toutes les disciplines, on est en concurrence les uns avec les autres. Et puis, il y a un cours d'empathie, on vous sermonne sur ce qui est bien, ce qui est mal. L'empathie, c'est bien, ne pas en avoir, c'est nul. Mais c'est au contraire, laisser infuser dans toutes les pratiques une forme de respect et d'attention à l'autre.
Oui, et après, moi, je m'interroge si... parce que ce qu'apporte Samakaraki sur l'empathie, c'est quand même qu'elle démontre qu'on est toujours exclu de l'expérience de l'autre. C'est ça. Enfin, pour moi, ça serait ça, d'apprendre, en fait, dès le plus jeune âge, que jamais tu vas vraiment comprendre la personne en face, quoi qu'elle vive. Peut-être tu vas croire que tu vas comprendre, peut-être parce qu'elle te ressemble et qu'elle a le même jouet et le même short, tu vas t'identifier, mais concrètement, tu pourras jamais recevoir ce qu'elle ressent. Et pour moi, ça serait ça, l'éducation à l'empathie, c'est de toujours comprendre que l'autre vit une expérience différente, et donc comment je vis moi avec ça, dans le fait que je vais toujours être exclue de l'expérience de l'autre. Mais je ne pense pas que Gabriel Attal ait pensé à ça, enfin voilà. Mais je sais pas, j'ai pas lu le truc. Hein.
Mais on reviendra à ce que tu dis, ce que tu soulèves, juste pour terminer avec Gabriel Attal, il me semble que ça dénote aussi un certain état d'esprit, que Samakaraki d'ailleurs, je ne sais pas si elle dénonce, en tout cas, elle écrit ceci, je l'ai noté, « L'appel à l'empathie comme boussole morale est exactement en phase avec l'individualisation néolibérale de la responsabilité, plutôt que de plaider en faveur de réponses politiques et sociales, de la souffrance et à l'injustice, l'appel à l'empathie est une réponse individualisée et émotive. »
Exactement. C'est la continuité du bien-être, du développement personnel et du capitalisme, quoi.
Donc, pourquoi ce titre « L'empathie est politique » ? Je me suis posé la question parce que ça peut vouloir dire exactement l'inverse de ce que ça dit. L'empathie est politique.
Bah, c'est politique dans le sens où si on la redéfinit pas et qu'on l'interroge pas, elle reste dans le champ du bien-être et du développement personnel en appartenant à cette sphère-là. Mais en fait, elle est politique parce que si on la redéfinit et qu'on en fait un objet de lutte, en fait, elle devient politique parce que une empathie façonnée, une empathie réfléchie, ça permet, par exemple, ça permettrait au hasard aujourd'hui d'avoir de l'empathie pour les personnes qui sont en Palestine. C'est juste ça.
Donc, en fait, l'idée, c'est quoi ? C'est donc de ne pas jeter l'empathie, je disais, avec... de ne pas se débarrasser de l'empathie. L'empathie peut être intéressante, mais si et seulement si elle est comprise comme une construction et donc sur laquelle on peut réfléchir et on peut se dire que, effectivement, non, je ne pourrai jamais être à la place de l'autre. Je serai peut-être en conflit, mais le conflit peut nourrir des choses et il ne faut pas que je sois assimilée nécessairement à l'autre. En fait, la différence peut être porteuse de réflexion. c'est ça.
Et ouais, et de tenir dans la différence, c'est-à-dire
de tenir,
de regarder l'autre dans la différence. Et elle parle beaucoup de l'inconfort, que ça soit dans son livre ou dans des interviews qu'on peut avoir d'elle. Sama Karaki parle de la honte qu'on peut ressentir quand on entend l'autre. Ben, c'est une réalité et on peut pas la jeter. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Et l'inconfort de pas comprendre l'autre. Ben oui. Mais on peut dépasser ça, en fait. En fait, cet inconfort, il n'est pas immuable, il n'est pas à vie. Je veux dire, c'est normal d'être inconfortable. Si moi, par exemple, je suis face à une personne ukrainienne qui me raconte la guerre, où j'en ai eu rien à foutre, et je le dis parce qu'en fait, c'est pas mon endogroupe, et que c'est pas de ma faute. Enfin, en fait, c'est ça le truc, c'est se dire, c'est pas grave, ça existe. Malheureusement, je n'ai pas d'émotion quand je vois la guerre en Ukraine. Par contre, je vais pas aller me raconter qu'il ne se passe rien et que ces gens ne voilà, c'est là où se joue le truc.
C'est ça. En fait, tu découples l'empathie de un mode de réflexion et d'action politique. Et en fait, il faut découpler les deux. L'un peut aller à l'autre s'il est bien compris, construit au fil du temps, mais en fait, l'un ne veut pas forcément dire l'autre. D'ailleurs, elle en parle aussi, l'empathie peut au contraire justement renforcer son endogroupe et renforcer la haine envers les autres. C'est de l'empathie. L'empathie ne veut pas forcément dire l'altruisme.
Bien sûr, et en plus sous couvert de bonnes intentions. Mmh. Et l'enfer est pavé de bonnes intentions. Et franchement, si on fait pas ce travail de s'interroger collectivement sur notre empathie, bah en fait, on va pas aller à la rencontre de l'expérience de l'autre, donc de bouger les choses.
Ce soir, troisième et dernier arpentage, vous allez aborder quelle facette? Est-ce que tu sais déjà?
Voilà, il y a un thème que j'aime beaucoup et qui va être ce soir, c'est le tourisme affectif. Alors là, ça, c'est ma Sama Karaki, elle défonce tout. Non, mais il y a des termes comme ça que... En fait, faut bien se rendre compte que c'est des sujets qui sont assez nouveaux quand même, surtout quand ils sont accessibles comme ça, parce que genre, c'est pas littéraire, c'est pas universitaire. Enfin, je veux dire, on peut lire et on peut comprendre. Et en fait, elle parle de choses qu'on peut ressentir, mais qu'on n'arrive pas à nommer. Il y a un malaise, vous voyez. Moi, quand j'entends des gens qui vont en Palestine, qui vont au Liban, ils me racontent des choses, des Occidentaux, j'ai dit, putain, il y a un truc qui va pas, mais je sais pas quoi. Mais en fait, ça existe, le tourisme affectif. Voilà, on va en parler ce soir. Ah. Alors, bah, je ne vais pas tout spoiler, mais en gros, c'est une histoire de s'approprier l'expérience de l'autre et d'en faire sienne. Donc, ça veut dire que l'autre, on le dépossède, mais alors vraiment de tout. Ça veut dire que, par exemple, en mission humanitaire, vous partez, vous avez l'impression de faire quelque chose, et en fait, l'émotion de l'autre, vous la prenez pour vous, mais en fait, vous n'avez jamais aidé l'autre là-dedans. Parce qu'il n'y a que vous, en fait. Il n'y a que vous qui faites quelque chose. Et en fait, c'est du tourisme affectif avec de l'émotionnel, et en fait, la personne, vous repartez, elle n'a rien construit avec vous. C'est cette notion d'aller prendre l'émotion de l'autre et de repartir. Voilà. Très capitaliste, encore une fois, et très colonisateur aussi. Et ça, il faut le lire pour aussi se dire, bah, c'est quoi le voyage? Comment j'ai envie de voyager? Enfin, voilà. Et il y aura ça et il y aura d'autres choses, mais c'est une des notions que j'avais beaucoup aimé, ouais.
Donc, ce sera ce soir, ouais. De 19h30 à 21h30 au Palabre.
Exactement.
Tu précises que ce sera une salle un peu plus calme,
oui,
que les dernières,
voilà,
fois, si des habitués veulent venir.
Exactement.
De précédent. Mais on répète que si les personnes ne sont pas allées aux deux précédentes, c'est possible. On peut prendre
Exactement.
En cours.
Ah oui, on peut prendre en cours parce que de toute façon, tout est intéressant.
Et dernière chose, Sama Karaki sera à la librairie du Tiers-Temps.
Oui! Mais quelle chance! Non, je suis trop contente. Vraiment, je suis trop contente. Elle vient le 30 octobre et c'est vraiment. Pour moi, qu'elle vienne en Ardèche, c'est assez symbolique, hein, parce qu'il ne se passe pas grand-chose au niveau. Enfin, il se passe des choses, mais je veux dire, c'est assez rare. Et que ça soit une autrice de ce niveau-là, c'est-à-dire avec cette aura, parce que moi, je la connais, donc je vois où est-ce qu'elle intervient un peu partout. Et je suis trop contente qu'elle vienne jusqu'ici, parce qu'en plus. Quand elle parle, on comprend. C'est une hyper bonne vulgarisatrice. Et c'est hyper important, enfin, voilà, sur ce sujet qui, en Ardèche, est très important aussi. Avec tout ce qui est développement et compagnie. Ben, en fait, ça, c'est un super endroit pour parler de ça, quoi.
Ah oui, oui. Développement, tu veux dire développement personnel.
Oui, bien sûr.
Thérapie alternative.
Voilà, les énergies, tout ça. Et voilà, quoi. Et Sama, elle recadre. Hop, tac. Mais gentiment, paf, paf, paf.
Ok, eh ben, on sera au rendez-vous, enfin, j'espère, en tout cas j'invite tout le monde à venir, c'est gratuit.
Oui.
C'est gratuit, donc ce sera jeudi 30 à la librairie du Tiers-Temps à Aubenas. Et sinon, la dernière de l'arpentage, c'est ce soir au Palabre, aussi à Aubenas, à 21h30.
19h30 jusqu'à 21h30. Oui.
19h30.
Venez, venez, venez.
Ben, merci beaucoup.
Merci à vous.
D'être venu parler de ce bouquin, Samakaraki, l'empathie et politique, sous-titré « Comment les normes sociales façonnent la biologie des sentiments ». Je le redis parce que ce sous-titre, finalement, éclaire énormément de ce bouquin.
Bien sûr.
Merci Sylvain pour la réalisation de cette émission. Merci à vous toutes et tous d'avoir suivi cette onde curieuse. Restez à l'écoute puisqu'à 13h, c'est Drôle de Dame. À 15h, le Télex. À 16h, on embarque sur la route. À 17h, c'est la rediffusion de cette onde curieuse. À 18h, c'est Polémics et la voix off qui nous parle encore d'une lutte, encore un scandale écocidaire et financier. C'est celui de la nationale 80, le déplacement de la nationale 88 entre Le Pertuis et Saint-Austien en Haute-Loire. 10,8 km de deux fois deux voies. Ouh, non à la route à Vauquier. Ce sera donc à 18h dans Polémics et la voix off. À 20h, salut à toi et à 21h, Metal Zone. Et nous, on se retrouve jeudi avec deux visions du handicap, l'un par les personnes elles-mêmes que l'on dit empêchées, et deux artistes, Baptiste Dupré, musicien, et Anne-Laure Guedret, danseuse pour le festival M&H Nouvelle Formule, et l'autre par les collégiens du CDJ qui ont enquêté sur le handicap au collège. Voilà, vous pouvez réécouter cette émission quand vous voulez, à partir de 18h sur notre site internet qui est formidable, fréquence7.net. Ciao.